Liberté et tête ou de la science. Partie 6. Théodore. Il ne serait point pardonnable, Socrate, de ne pas discuter ce que disent les uns et les autres. Socrate. Puisque tu montres tant d'ardeur, il faut entrer dans cette discussion. Or, il me paraît naturel, dans une question sur le mouvement, de commencer par voir ce que veulent dire ceux qui prétendent que tout se meut. Je m'explique. Je demande s'ils n'admettent qu'une espèce de mouvement, ou s'ils en reconnaissent deux, comme je pense qu'on le doit faire. Mais il ne suffit pas que je le pense seul. Il faut que tu sois de la partie, afin que, quelque chose qu'il arrive, nous l'éprouvions en commun. Dis-moi, lorsqu'une chose passe d'un lieu à un autre, ou qu'elle tourne sur elle-même sans changer de place, appelles-tu cela se mouvoir ? Théodore, oui. Socrate, que ce soit donc là une espèce de mouvement. Et, lorsque demeurant dans le même lieu, elle vieillit, ou de blanche, devient noire, ou de molle, dure. Enfin, qu'elle éprouve toute autre altération, ne doit-on pas dire que c'est là une seconde espèce de mouvement ? Théodore. Il me paraît que oui. Socrate. On ne peut en disconvenir. Je compte donc deux sortes de mouvements. L'un d'altération, l'autre de translation. Théodore. Tu as raison. Socrate. Cette distinction faite, adressons maintenant la parole à ceux qui soutiennent que tout se meut, et faisons-leur cette question. Dites-vous que toutes choses se meuvent de ce double mouvement de translation et d'altération, ou que quelques-unes se meuvent de ces deux façons, et d'autres de l'une des deux seulement. Théodore. En vérité, je ne sais que répondre. Il me semble pourtant qu'ils diront que tout a ce double mouvement. Socrate. Ah, s'ils ne le disaient pas, mon cher, ils seraient obligés de reconnaître que les mêmes choses sont en mouvement et en repos, et qu'il n'est pas plus vrai de dire que tout se meut que de dire que tout est immobile. Théodore. Rien de plus vrai. Socrate. Ainsi, puisqu'il faut que tout se meuve et que la négation de mouvement ne se rencontre nulle part, toutes choses sont toujours mues et de toute manière. Théodore. Nécessairement. Socrate. Fais-moi bien attention à ceci. Ne disions-nous pas qu'ils expliquent la génération de la chaleur et de la blancheur à peu près de cette manière. Chacune se meut avec la sensation dans l'espace intermédiaire entre l'agent et le patient. Le patient devient sentant et non pas encore sensation. Et l'agent devient affecté de telle ou telle qualité et non pas qualité en soi. Peut-être ce mot de qualité te paraît-il étrange, et ne conçois-tu point la chose sous cette expression générale ? Écoute-la donc en détail. L'agent ne devient ni chaleur ni blancheur, mais chaud, blanc et ainsi du reste. Car tu te souviens sans doute de ce qui a été dit précédemment, que rien n'est en soi, ni ce qui agit, ni ce qui pâtit, mais que de leur rapprochement mutuel naissent les sensations et les choses sensibles. D'où résulte d'un côté ce qui a telle ou telle qualité, de l'autre ce qui est sentant. Théodore. Et comment ne m'en souviendrai-je pas ? Socrate. Laissons tout le reste de leur système sans nous mettre en peine de quelle manière ils l'expliquent. Tenons-nous-en au seul point qui nous intéresse et demandons-leur. Tout se meut, dites-vous. Tout s'écoule, n'est-ce pas ? Théodore. Oui. Socrate. Sans doute du double mouvement que nous avons distingué, de translation et d'altération. Théodore. Sans contredit, si l'on veut que tout se meuve complètement.
Socrate. Si les choses changeaient de lieu et qu'elles ne s'altérassent point, on pourrait déterminer par la parole quelles sont les choses qui changent de lieu dans leur mouvement. N'est-il pas vrai ?
Théodore. Oui.
Socrate. Mais comme ce n'est pas même une chose fixe que ce qui coule, coule blanc, mais qu'au contraire, il y a du changement à cet égard, en sorte que la blancheur elle-même s'écoule et devient une autre couleur, de peur qu'on ne la surprenne dans un état fixe. Est-il jamais possible de donner à quelque couleur un nom convenable ?
Théodore.
Quel moyen, Socrate ? Et pour la couleur, et pour toute autre qualité semblable, puisqu'en s'écoulant, elle échappe sans cesse à la parole qui veut la saisir.
Socrate.
Et que dirons-nous des sensations, par exemple, de celles de la vue ou de l'ouïe ? Assurerons-nous qu'elles demeurent dans l'état de vision ou d'audition ?
Théodore.
Il ne le faut pas, s'il est vrai que tout se meut.
Socrate.
Par conséquent, tout étant dans un mouvement universel, on ne doit dire de quoi que ce soit, qu'il voit plutôt qu'il ne voit pas, ou qu'il a telle sensation plutôt qu'il ne l'a pas.
Théodore.
Non, sans doute.
Socrate.
Or, la sensation est la science, avons-nous dit Tête et moi.
Théodore.
Il est vrai.
Socrate.
Lors donc qu'on nous a demandé ce qu'est la science, nous avons répondu que c'est une chose qui n'est pas plus science qu'elle ne l'est pas.
Théodore, je le crains.
Socrate. Ne voilà-t-il pas notre réponse justifiée d'une belle manière ? Pour en montrer la justesse, nous nous sommes efforcés de prouver que tout se meut. Tandis que, si tout se meut en effet, il en résulte que toute réponse, sur quelque chose que ce soit, est également juste. Qu'on dise que cela est ainsi, ou que cela n'est pas ainsi, ou, si tu aimes mieux, que cela devient ou ne devient pas ainsi, pour n'imposer aucune fixité à nos adversaires.
Théodore.
À merveille.
Socrate.
Oui, Théodore. Si ce n'est que je me suis servi des expressions « ainsi », pas ainsi. Or, il ne faut point dire ainsi, car ainsi serait un point fixe. Ni pas ainsi non plus, car il n'y a pas là de mouvement. Mais les partisans de ce système doivent chercher quelque autre terme. Et jusqu'ici, dans leur hypothèse, ils n'en ont pas dont ils puissent se servir, hormis celui-ci. En aucune manière. Cette expression indéfinie est celle qui va le mieux avec leurs sentiments.
Théodore.
Oui, cette façon de parler leur sied tout à fait.
Socrate.
Nous voilà donc, Théodore, délivrés de ton ami. Nous ne lui accordons point que tout homme soit la mesure de toute chose, s'il n'est pas habile. Et jamais nous n'avouerons que la sensation soit la science, du moins sur ce principe que tout est en mouvement. Pourvu que Tête ne soit pas d'un autre avis.
Théodore.
Très bien dit, Socrate. Ce point achevé, je suis pareillement quitte de l'obligation de te répondre, comme nous en sommes convenus lorsque l'examen du sentiment de Protagoras serait fini.
Tête.
Non, pas encore, Théodore. Jusqu'à ce que vous ayez discuté, Socrate et toi, l'opinion de ceux qui disent que tout est en repos, comme vous vous êtes tout à l'heure proposé de le faire.
Théodore.
Quoi, si jeune, Tête, tu donnes aux vieillards des leçons d'injustice, leur apprenant à violer leurs conventions ? Apprête-toi à faire raison à Socrate sur ce qui reste.
Tête.
Je le veux bien, s'il y consent. Je vous aurais pourtant entendu tous les deux avec le plus grand plaisir.
Théodore.
Inviter Socrate à disputer, c'est inviter les cavaliers à courir dans la plaine. Interroge-le donc, et tu l'entendras.
Socrate.
Je ne pense pas, Théodore, que je me rende à l'invitation de Tête.
Théodore.
Et pourquoi pas ?
Socrate.
je crains que nous n'ayons assez mauvaise grâce à critiquer Mélisse et ceux qui soutiennent que tout est un et immobile. Mais je l'appréhende moins pour eux tous ensemble que pour le seul Parménide. Parménide me paraît tout à la fois respectable et redoutable, pour me servir des termes d'Homère. Je l'ai fréquenté, moi, fort jeune, lui étant fort vieux, et il m'a semblé qu'il y avait dans ses discours une profondeur tout à fait extraordinaire. J'ai donc grand peur que nous ne comprenions point ses paroles, et encore moins sa pensée. Et plus que tout cela, j'ai peur que les digressions qui viennent se jeter à la traverse, si nous les écoutons, ne nous fassent perdre de vue l'objet principal de cet entretien qui est de connaître la nature de la science. D'ailleurs, le sujet que nous réveillons ici est immense. Ce serait lui faire tort de ne l'examiner qu'en passant. Et si nous lui donnons toute l'étendue qu'il mérite, c'en est fait de la question qui nous occupe. Or, il ne faut pas que ni l'un ni l'autre arrive. Et il vaut mieux que nous essayions, avec l'art des sages-femmes, de délivrer Théétète de ses conceptions sur la science. Théodore. À la bonne heure, si tel est ton avis. Socrate. Fais donc encore, Théétète, sur ce qui a été dit, l'observation suivante. Tu as répondu que la sensation et la science sont une même chose, n'est-ce pas ? Théétète. Oui, Socrate. Si on te demandait avec quoi l'homme voit le blanc et le noir, et entend l'aigu et le grave, tu dirais apparemment que c'est avec les yeux et les oreilles. Théétète. Sans doute. Socrate. Quoique, pour l'ordinaire, il convienne assez à un homme bien élevé de ne pas être trop difficile sur l'emploi des mots et de ne pas les prendre trop à la rigueur, et que le contraire soit plutôt même étroit et mesquin. Cependant, cela est quelquefois nécessaire. Par exemple, je ne puis me dispenser de relever dans ce que tu viens de dire quelque chose de défectueux. Vois en effet quelle est la meilleure de ces deux réponses. L'œil est ce avec quoi nous voyons, ou bien ce par quoi nous voyons. L'oreille est ce avec quoi nous entendons, ou ce par quoi nous entendons. Théétète. Il me paraît mieux de dire, Socrate, que c'est par eux plutôt qu'avec eux que nous sentons. Socrate. Effectivement, il serait étrange, mon enfant, qu'il y eût en nous plusieurs sens, comme dans des chevaux de bois, et que nos sens ne se rapportassent pas tous à une seule essence, qu'on appelle âme ou autrement, avec laquelle, par les sens comme autant d'instruments, nous sentons tout ce qui est sensible. Théétète. Il me semble qu'en effet, la chose est plutôt ainsi. Socrate. La raison qui me fait exiger ici de toi tant d'exactitude, c'est que je voudrais savoir s'il est en nous un seul et même principe avec lequel nous atteignons par les yeux ce qui est blanc ou noir et les autres objets par les autres sens. Et si à chaque espèce de sensation correspondent des organes corporels. Mais peut-être vaut-il mieux que tu dises tout cela de toi-même que de me donner cette peine pour toi. Réponds donc. Ne rapportes-tu pas au corps les organes par lesquels tu sens ce qui est chaud, sec, léger, doux ? Théétète. Au corps ? Socrate. Et voudras-tu aussi m'accorder que ce que tu sens par un organe, il t'est impossible de le sentir par un autre, comme par la vue, ce que tu sens par l'ouïe, ou par l'ouïe, ce que tu sens par la vue ? Théétète. Comment ne le voudrais-je pas ? Socrate. Si donc tu as quelque idée sur les objets de ces deux sens pris ensemble, ce ne peut être ni par l'un ni par l'autre organe que te vient cette idée collective ?
Théétète.
Non, sans doute.
Socrate.
Or, la première idée que tu as à l'égard du son et de la couleur, pris ensemble, c'est que tous les deux sont.
Théétète. Oui.
Socrate. Et aussi que l'un est différent de l'autre et identique à lui-même.
Théétète.
Sans contredit.
Socrate.
Et encore, que pris conjointement, ils sont deux, et que chacun pris à part est un.
Théétète.
Je le crois.
Socrate.
N'es-tu pas aussi en état d'examiner s'ils sont semblables ou dissemblables entre eux ?
Théétète. Peut-être.
Socrate. Or, toutes ces idées, par quel organe les acquiers-tu sur ces deux objets ? Car ce n'est ni par l'ouïe ni par la vue que l'on peut saisir ce qu'ils ont de commun. Voici une nouvelle preuve de ce que nous disons. Suppose qu'on examine s'ils sont salés l'un et l'autre, ou non. Il te serait aisé de dire, n'est-il pas vrai, avec quoi tu ferais cet examen ? Et ce n'est ni avec la vue, ni l'ouïe, mais avec quelque autre sens.
Théétète.
Assurément, avec celui qui s'exerce par l'organe de la langue.
Socrate.
Tu as raison. Mais par quel organe s'exerce cette faculté qui te fait connaître ce qui est commun à ces deux objets et à tous les autres ? Et ce que tu appelles en eux « être » et n'être pas. Sur quoi je t'interrogeais tout à l'heure. Quels organes destines-tu à ces perceptions ? Par où ce qui sent en nous acquiert le sentiment de toutes ces choses ?
Théétète.
Tu parles de l'être et du non-être, de la ressemblance et de la dissemblance, de l'identité et de la différence, et encore de l'unité et des autres nombres. Tu parles du pair et de l'impair, et de tout ce qui en dépend. Et il est évident que tu me demandes par quels organes du corps l'âme sent tout cela.
Socrate.
Admirablement bien, Théétète. C'est cela même que je demande.
Théétète.
En vérité, Socrate, je ne sais que dire. Sinon, qu'il me paraît que nous n'avons point d'organes particuliers pour ces sortes de choses, ainsi que pour les autres, mais que notre âme examine immédiatement par elle-même ce que tous les objets ont de commun.
Socrate.
Tu es beau, Théétète, et non pas laid, comme disait Théodore, car celui qui répond bien est bon et beau. Mais, outre ta beauté, tu es encore le plus obligeant des hommes de m'avoir exempté d'une très longue discussion. Si tu juges qu'il y a des objets que l'âme connaît par elle-même et d'autres qu'elle connaît par les organes du corps. C'était en effet ce qu'il me semblait, et je souhaitais que ce fût aussi ton avis.
Théétète.
Eh bien, je pense comme toi.
Socrate.
Dans laquelle de ces deux classes ranges-tu l'être ? Car c'est ce qui est le plus généralement commun à toute chose.
Théétète.
Dans la classe des objets avec lesquels l'âme se met en rapport immédiatement et par elle-même.
Socrate.
En est-il de même de la ressemblance et de la dissemblance, de l'identité et de la différence ?
Théétète.
Oui.
Socrate.
Et du beau et du laid, du bien et du mal ?
Théétète.
Il me paraît que ces objets, surtout, sont du nombre de ceux dont l'âme examine l'essence relative, en combinant en elle-même le passé et le présent avec le futur.
Socrate.
Arrête. N'est-ce point par le toucher que l'âme sent la dureté de ce qui est dur, et par la même voie, la mollesse de ce qui est mou ?
Théétète.
Oui.
Socrate.
Mais pour leur essence, leur opposition et la nature de cette opposition, c'est l'âme qui, les examinant à plusieurs reprises, et les confrontant ensemble, essaient de nous les juger par elles-mêmes.
Théétète. Sans doute.
Socrate.
Il est donc des choses qu'il est donné aux hommes et aux bêtes de sentir, dès qu'ils sont nés, celles qui passent jusqu'à l'âme par l'organe du corps. Tandis que les réflexions sur ces sensations, par rapport à leur essence et à leur utilité, on n'y arrive qu'à la longue. Quand on y arrive, avec beaucoup de peine, de soins et d'études.
Théétète.
Tout à fait.
Socrate.
Est-il possible que ce qui ne saurait atteindre à l'essence atteigne à la vérité?
Théétète.
Ah non.
Socrate. Aura-t-on jamais la science quand on ignore la vérité?
Théétète.
Le moyen, Socrate.
Socrate.
La science ne réside donc point dans les sensations, mais dans la réflexion sur les sensations, puisqu'il paraît que c'est par la réflexion qu'on peut saisir l'essence et la vérité, et que cela est impossible par l'autre voie.
Théétète.
Ah, il y a toute apparence.
Socrate.
Diras-tu donc que ces deux choses sont la même chose, tandis qu'il y a entre elles une si grande différence?
Théétète.
Cela ne serait pas juste.
Socrate.
Quel nom donnes-tu à la première, comme voir, entendre, flairer, se refroidir, s'échauffer?
Théétète.
Sentir? Car de quel autre nom l'appeler?
Socrate.
Tu comprends donc tout cela sous le nom général de sensation?
Théétète.
Il le faut bien.
Socrate.
Sensation à laquelle il n'appartient pas, disons-nous, d'atteindre à la vérité, puisqu'elle n'atteint pas à l'essence.
Théétète.
Il est vrai.
Socrate.
Ni par conséquent à la science.
Théétète.
Non plus.
Socrate.
La sensation et la science ne sauraient donc jamais être la même chose,
Théétète.
Théétète.
Il paraît que non, Socrate.
Socrate.
C'est à présent surtout que nous voyons avec la dernière évidence que la science est autre chose que la sensation. Mais nous n'avons pas commencé cet entretien dans la vue de découvrir ce que la science n'est pas. Nous voulions savoir ce qu'elle est. Cependant, nous sommes assez avancés pour ne plus chercher la science dans la sensation. Mais dans cette opération de l'âme, quel que soit le nom qu'on lui donne, par laquelle elle considère elle-même les objets.
Théétète.
Il me semble, Socrate, que cela s'appelle juger.
Socrate.
Tu as raison, mon cher ami. Vois donc de nouveau, après avoir effacé de ton esprit toutes les idées précédentes, si, au point où tu en es à présent, les choses se montrent à toi plus clairement. Et dis-moi encore une fois ce que c'est que la science.
Théétète.
Il n'est pas possible, Socrate, de dire que c'est toute espèce de jugement, puisqu'il y a des jugements faux. Mais apparemment, le jugement vrai est la science. Et c'est là ma réponse. Si nous découvrons, comme tout à l'heure en avançant, que ce n'est pas cela, nous tâcherons de dire autre chose.
Socrate.
C'est ainsi, Théétète, qu'il faut s'expliquer hardiment, plutôt que d'hésiter comme tu faisais d'abord. Car, si nous faisons ainsi, de deux choses l'une, ou nous trouverons ce que nous cherchons, ou nous croirons moins savoir ce que nous ne savons pas. Ce qui n'est point un avantage à mépriser. Maintenant donc, que dis-tu? Qu'il y a deux espèces de jugements, l'un vrai, l'autre faux, et que la science est le jugement vrai.
Théétète.
Oui, c'est mon avis pour le présent.
Socrate.
N'est-il pas à propos de revenir encore sur le jugement?
Théétète.
Comment donc?
Socrate.
Ce sujet me trouble et m'a déjà troublé plus d'une fois, en sorte que j'ai été vis-à-vis de moi-même et des autres, dans un grand embarras, ne pouvant expliquer ce que c'est en nous que ce phénomène, et de quelle manière il s'y forme.
Théétète.
Quel phénomène ?
Socrate.
Le faux jugement. J'examine à ce moment, et je suis en balance, si nous laisserons là ce point, ou si nous le discuterons autrement que nous n'avons fait un peu auparavant.
Théétète.
Pourquoi non, Socrate ? Pour peu que cela paraisse nécessaire. Il n'y a qu'un moment, vous ne disiez pas mal, Théodore et toi, en parlant du loisir, que rien ne presse dans des matières telles que celles-ci.
Socrate.
Tu m'en fais souvenir fort à propos. Peut-être ne ferons-nous pas mal de revenir en quelque sorte sur nos traces.
Car il vaut mieux approfondir peu de choses que d'en parcourir beaucoup d'une manière insuffisante.
Théétète. Sans contredit.
Socrate.
Eh bien, que disons-nous ? Qu'il y a quelquefois des jugements faux. Que tel d'entre nous juge faux.
Tel autre vrai.
Et que telle est la nature des choses.
Théétète.
Nous le disons en effet.
Socrate.
En général et en particulier, n'est-ce pas pour nous une alternative de savoir ou de ne point savoir une chose ?
Car apprendre et oublier, tenant le milieu entre savoir et ignorer,
je n'en parle pas, parce que cela ne fait rien à la discussion présente.
Théétète.
Oui, Socrate, il ne reste à l'égard de chaque chose que de la savoir ou de l'ignorer.
Socrate.
Il suit donc que c'est une nécessité quand on juge, de juger sur ce qu'on sait ou sur ce qu'on ne sait pas.
Théétète.
Oui.
Socrate.
Et ne pas savoir ce qu'on sait ou savoir ce qu'on ne sait pas est impossible.
Théétète.
Assurément.
Socrate.
Quand on juge faux sur ce qu'on sait, s'imagine-t-on que la chose qu'on sait n'est point telle chose, mais une autre que l'on sait aussi, en sorte que les connaissant toutes deux, on les ignore toutes deux en même temps.
Théétète.
Cela ne se peut, Socrate.
Socrate.
Se figure-t-on que ce qu'on ne sait pas est une autre chose qu'on ne sait pas davantage ? Et se peut-il qu'il vienne à l'esprit d'un homme qui ne connaît ni Théétète ni Socrate, que Socrate est Théétète ou Théétète Socrate ?
Théétète.
Comment cela pourrait-il être ?
Socrate.
On ne s'imagine pas non plus que ce qu'on sait est le même que ce qu'on ignore, et ce qu'on ignore le même que ce qu'on sait.
Théétète.
Ce serait un prodige.
Socrate.
Comment donc jugerait-on faux, puisque le jugement ne saurait avoir lieu hors des cas que je viens de parcourir, tout étant compris dans ce que nous savons ou ne savons pas.
Et, dans tous ces cas, il nous paraît impossible de juger faux.
Théétète.
Rien de plus vrai.
Socrate.
Peut-être ne faut-il point considérer le problème en question sous le point de vue de la science ou de l'ignorance, mais sous celui de l'être et du non-être.
Théétète.
Comment dis-tu ?
Socrate.
Vois, si l'on ne pourrait pas établir absolument que quiconque juge sur quoi que ce soit ce qui n'est point, juge nécessairement faux, quelles que soient d'ailleurs ses lumières.
Théétète.
Ah, il y a apparence, Socrate.
Socrate.
Eh bien, que dirons-nous, Théétète, si l'on nous demande ? Mais ce que vous dites est-il possible ? Et quel homme jugera ce qui n'est point, soit sur des objets réels, soit sur des êtres abstraits ?
Nous répondrons, ce me semble, que c'est celui qui ne juge pas selon la vérité.
Car quelle autre réponse faire ?
Théétète.
nul autre.